Cours de philosophie première de Père Marie-Dominique Philippe, le 30 septembre 1999 à Saint-Jodard.
Nous avons toujours deux sources pour notre philosophie. Il ne faut jamais l'oublier. Il y en a une première, plus lointaine, mais qui d'une certaine manière nous enveloppe tout le temps, c'est l'histoire de la philosophie. Quand je dis histoire de la philosophie, j'aimerais mieux dire histoire des philosophes. Parce que l'histoire de la philosophie serait histoire de la pensée. Alors est-ce que ça existe, l'histoire de la pensée? La pensée, par définition, est au-dessus de l'histoire. Alors, faire l'histoire de la pensée, c'est ramener la pensée à l'histoire. Vous êtes au-delà du devenir par votre intelligence. Quand votre intelligence commence à pousser, vous devenez relatif à l'être. C'est un grand jour, la naissance de votre intelligence. Et avant ça, vous êtes dépendant du devenir, du milieu dans lequel vous êtes. Et le gosse qui commence à marcher, et quand la mère est absente et peut être toujours là, elle le met dans une sorte de jardin d'enfants bien clôturé. Sens de la clôture, c'est ça. Et ça reste tout le temps chez les gens. Ils ont une petite clôture comme ça. Vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez regarder, mais vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez pas sortir au-dessus. On est dans un devenir. Notre milieu humain, il est dans un devenir. Mais notre pensée est au-dessus. Alors, je crois qu'on doit dire, et c'est comme ça qu'on devrait le faire. On fait l'histoire de la pensée. Moi, ça me fait toujours mal de dire l'histoire de la pensée. La pensée est au-delà de l'histoire. Ça, c'est sûr. Mais l'histoire des philosophes. Et au fond, quand on lit un philosophe, pour être vrai pour ce philosophe, il faut voir d'où il part et où il va. Ne jugez pas, par exemple, un philosophe comme Bergson. Il est parti d'un positivisme, et puis progressivement, il a dépassé. Avec le coup de pouce de la Sainte Vierge. Juif, il n'a pas voulu dire qu'il se convertissait, alors qu'il était converti de cœur, pour ne pas se désolidariser des autres juifs condamnés par Hitler. Et il a eu une visite de la Sainte Vierge. Alors ça, c'était en dehors de sa philosophie, c'est sûr. Ça faisait partie du jardin d'enfants. Il y avait la clôture et puis il y avait quelqu'un en dehors de la clôture et qui venait le faire montrant. Il y a un dépassement de la clôture, ça, fameux. Et ça l'a aidé, ça, dans sa vie. Et n'en parlez pas. Mais ce qui a fait le grand passage pour Bergson, c'était Plotin. Le cours de Bergson sur Plotin était magnifique. Et ça lui a permis de comprendre l'esprit. Histoire des esprits, non, histoire des hommes philosophes. On voit d'où ils sont partis et où ils vont. Et alors à ce moment-là, on les aime, parce qu'on voit leur dépassement. Et c'est le grand moyen d'aimer quelqu'un. Mais si vous regardez les conclusions, vous êtes scolastique. Et vous jugez très durement. Parce que vous jugez quelqu'un qui t'en donne telle conclusion, mais voyez ce qu'il a reçu. Dieu fait tout le temps comme ça, hein. Dieu nous regarde par le terme de notre vie, vision d'amour, et en assumant tout le reste, tout ce qui est vrai dans notre vie. Alors, il y a une source qu'il ne faut jamais oublier, la source de l'histoire des philosophes, l'Olympe des philosophes. Il y a un livre qui est très beau. Je l'ai prêté à quelqu'un, puis il n'est jamais revenu. C'est très gênant, parce que c'est un livre que j'aimais. Je l'aurais apporté ce matin, je rentrais. Ce livre, L'Olympe des philosophes. Et c'était fait par Merleau-Ponty, c'était fait avec astuce, pas mal du tout. Et c'était les philosophes. Alors, avec l'âge de la photographie, et avant l'âge de la sculpture. D'Aristote, on n'a pas de photographie. On a des bustes d'Aristote. Ils sont selon les divers artistes qui ont pensé à Aristote. C'est intéressant de voir ça du reste. Mais comme pour Saint-Jean, vous avez des bustes de Saint-Jean. Vous avez Saint-Jean, que nous connaissons bien, hein. Johannic. On voit ce que c'est. Saint-Jean en face du cadavre de Jésus. Cadavre d'un dieu. C'est ça qu'on voudrait, on dirait quand, en face de Saint-Jean, pensif comme ça, on devrait mettre une sculpture qui est très belle, c'est une des très... Mais c'est, évidemment, c'est pas Saint-Jean, fils du tonnerre. Il faudrait montrer Saint-Jean, fils du tonnerre. Hein. Quand il passait, ça devait être un peu tumultueux, c'est sûrement pas le calme paisible du lac où on ne remue rien. Mais quand on est en face de la mort, même les gens qui ont un irascible terrible sont dans le silence. Là, il y a quelque chose de très 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 grand, très beau. Alors, nous avons nous, en cette année-ci, l'histoire des philosophes européens. C'est quand même quelque chose. À partir de quel moment la philosophie s'est séparée de la théologie? Et je crois que ça, c'est très important. Et la manière dont elle s'est séparée de la philosophie. Vous voyez, il y aurait un livre extrêmement intéressant à faire là-dessus. Un livre pour qu'on comprenne, vous voyez, qui serait un peu le soubassement philosophique de l'encyclique du pape. L'Europe s'est construite à partir du christianisme. Elle est née dans le christianisme, l'Europe. Et le christianisme a été théologique, tout de suite. Les pères de l'Église sont des théologiens. Ce sont des prédicateurs théologiens. Ce sont des prédicateurs contemplatifs. Quand on cherche indéfiniment les rapports entre la contemplation et la vie apostolique, mais ce sont des radotages, vous voyez. Je dis bien, ce sont des radotages. Il suffit de regarder les pères de l'Église. Un saint Augustin, c'est un contemplatif. C'est un prédicateur éminent. Il y a une grandeur extraordinaire, saint Augustin. C'est quand vous regardez l'histoire de saint Augustin, vous ne pouvez pas juger saint Augustin comme saint Thomas. Saint Thomas a toujours été dans un climat, dans un milieu chrétien, merveilleux. Sauf à un moment donné, il voulait entrer chez les dominicains, et les dominicains étaient pour saint Thomas ce que saint Jean est aujourd'hui pour l'Église. Vous voyez, tout à fait comme ça. Oh, un jeune ordre comme ça, qu'est-ce qui va devenir? On voulait à tout prix que saint Thomas entre chez les bénédictins. Ça aurait été la mort de la Somme. Vous voyez. Parce que de fait, c'est vrai. Et il est entré chez les dominicains. Et on était furieux, parce qu'il ne serait pas abbé. Aurait été la famille de saint Thomas, il devait être abbé, ça fait carrière ça. Venez, on entre pour être évêque. Venez, si on est prêtre, on entre pour être évêque. Alors ça va. Avoir un fils évêque, ça se comporte pas mal, pas mal. Et puis il faut peut-être devenir cardinal, pas tout. Et puis peut-être pape. Il y a de l'avancement. Tandis qu'entrer dans un ordre comme saint Jean, c'est l'enterrement de première classe. Au point de vue carrière, et que ça demeure comme ça, tant mieux. Parce que saint Thomas dit, si on vous présente d'être évêque, refusez. Il y a combien de prêtres aujourd'hui qui seraient prêts à refuser d'être évêque, hein? Et c'est de rejeter avec le critère. Vous l'acceptez? Ah bien, vous ne le serez pas. Ah oui. Mais ça, il ne faut pas sortir ça en dehors, hein. Liszt, aujourd'hui, on est en présence d'une Europe philosophique qui est née dans un désir de libération à l'égard de la théologie. Au Moyen-Âge, il n'y a qu'une seule sagesse, la sagesse théologique. Et c'est saint Thomas. Saint Thomas, dont Scott, un peu, mais c'est saint Thomas. Et dans les grandes universités, il y avait la chaire thomiste et la chaire scottiste, et la chaire augustinienne. Et c'était les grands courants, à l'intérieur de l'Église, des grands courants de pensée. À un moment donné, il y a eu une espèce de réflexion critique. Et cette réflexion critique de Descartes est très intéressante. Alors, voir Descartes comme ça, c'est très intéressant. C'est de voir, vous voyez, le gros nuage d'orage qui monte et qui ne s'éclate pas encore avec Descartes. Descartes reste fidèle à l'Église. Mais au fond, la position de Descartes est une semence, une petite bombe atomique qui va éclater de Descartes à Hegel. Il y a une continuité. Il y a l'ontologisme qui naît et qui va faire à l'intérieur même de la pensée et de la culture chrétienne une bombe terrible qui va tout faire sauter. Hegel fait tout sauter. De Descartes à Hegel. On doit tenir compte de ça. Je ne peux pas faire de la philosophie en me disant, moi je me cantonne de regarder Thomas d'Aquin, et puis Thomas d'Aquin, il est intelligent, soyons comme lui. Puis, c'est un... Non, pas du tout. Le philosophe, il est philosophe de son temps. Je suis philosophe de ce siècle et de la fin de ce siècle. Et on verra ce que c'est le philosophe après l'an 2000. Parce que c'est quelque chose, ça. Et la naissance de la philosophie, d'une philosophie autonome, c'est le souci de ça. Et Descartes, vu comme ça, c'est l'orage qui monte. Et ça, c'est très intéressant. Alors, ce petit orage qui monte. Ce gros orage avec Hegel qui monte. Et il va tout prendre. Alors, Descartes n'est pas un phénomène d'une génération spontanée, pas du tout. Descartes a quelque chose qui l'ennuie terriblement, c'est qu'il a des professeurs qui sont des théologiens. Il a eu des professeurs théologiens, des pères jésuites. Et des théologiens qui n'étaient plus métaphysiciens, qui coulaient déjà vers un point de vue psychologique, un premier plan psychologique. Parce que Descartes est le père de la psychologie, ça c'est sûr. Dans le sens profond, dans le sens d'un regard sur l'histoire des philosophes. Avant Descartes, il y a Occam, 14e siècle, très peu de temps après Thomas d'Aquin. Et c'est à partir de Occam, il ne faut pas l'oublier, que les dominicains se sont un petit peu durcis en disant « tout professeur » chez les dominicains, devra être fidèle à Thomas d'Aquin et devra prononcer le serment de fidélité à Thomas d'Aquin. On ne pouvait pas enseigner chez les dominicains sans faire ce serment de fidélité à Thomas d'Aquin. Et alors on avait trouvé l'astuce, en fidélité quoi ? Ad mentem divi Thomae, ad mentem, être fidèle selon l'esprit. Oui, mais l'esprit s'incarne. Alors, dans dans le corps, c'est peut-être monstrueux, ça n'a pas d'importance. L'esprit, il faut que l'esprit reste. Vous voyez ? Et au fond, cette distinction permettait de faire tout ce qu'on voulait. Admantem divitum. Chez les dominicains, ce serment de fidélité faisait que quand on était maître en théologie, et que quand le Sochois a eu la permission de donner les grades de licence et de doctorat, comme université catholique, selon les constitutions, on n'avait pas le droit d'accepter une thèse de théologie et de philosophie qui soit contre l'esprit de Thomas d'Aquin. C'était quelque chose qui n'était pas toujours commode, refuser une thèse d'un jeune qui s'était donné à fond et qui aboutissait à des choses qui étaient complètement aberrantes par rapport à Thomas d'Aquin, interdit. Alors ça, l'esprit ne se garde pas comme ça. L'esprit ne peut pas se clôturer. C'est ça qui est toujours très difficile. Comment l'esprit se garde ? Pour nous, c'est capital, ça. Comment l'esprit se garde ? Il se garde en remontant toujours à la source et en ne s'arrêtant jamais aux conclusions. Un regard de sagesse. C'est le regard de sagesse. On garde l'esprit de Thomas d'Aquin, on garde l'esprit d'Aristote dans la sagesse. Et ça, le Saint-Père a. C'est merveilleux, cette encyclique, parce que c'est justement ça sur lequel il met l'accent. Le retour à la source. La source, c'est quoi ? Quand vous lisez un philosophe étranger, il faudra bien dater le pouls intellectuel du monde d'aujourd'hui. Faire une thèse sur Hegel. Et tâter le pouls sur la philosophie d'aujourd'hui. On fait une thèse sur tous les philosophes modernes. On peut. Qu'est-ce qu'on doit faire pour comprendre un philosophe ? Pour comprendre un philosophe, on essaie de saisir son esprit à travers ce qu'il a écrit. Il y a des thèses qui se font matériellement uniquement sur les écrits. Il y a des historiens qui connaissent parfaitement un philosophe, ils ont tout lu, mais ils n'ont rien compris. Mais ils ont tout lu. Ils n'ont rien compris du tout. Ils n'ont pas compris du tout le sens de telle ou telle affirmation. Vous voyez ? Le mot ne suffit pas pour le philosophe. On ne peut pas faire la philosophie des mots. On ne peut pas faire la philosophie de la parole. La philosophie se situe au niveau de la signification. Elle se situe au niveau de la finalité. L'intention profonde. Pourquoi avez-vous fait ce livre ? Dans quelle intention avez-vous écrit ? C'est la finalité. Cherchez quel est son point de départ, quel est son terme. L'itinéraire profond de l'esprit. Or, pour nous, nous sommes en face d'une philosophie des philosophes européens qui s'est partie de droite et de gauche. C'est vrai, elle est partie de droite et de gauche. Quand vous regardez l'itinéraire de la philosophie allemande, l'itinéraire de la philosophie espagnole, l'itinéraire de la philosophie italienne, l'itinéraire de la philosophie anglaise, l'itinéraire de la philosophie française, tout ça est sorti du Moyen-Âge. Vous allez dans ces différents pays, vous retrouvez des cathédrales qui ont le même style, qui vous disent la même chose. Et quand vous entrez dans ces cathédrales, vous respirez le même air. Cathédrale du Moyen-Âge. Et quand vous regardez les écrits qui viennent de ce Moyen-Âge, les écrits des philosophes allemands, des théologiens allemands d'aujourd'hui, hegeliens. Quel est le lien entre Hegel et la cathédrale du Moyen-Âge du XIIe siècle ? Quel est le lien entre certains aspects de Husserl et les cathédrales ? C'est ça qu'on doit faire, hein, si on est intelligent. Parce qu'il y a tous ces itinéraires, vous voyez. Et il faut avoir un peu votre carte, comme ça, dans vos différentes réflexions. Ayez votre carte. Oh, elle est peut-être très pauvre actuellement, ça n'a pas tellement d'importance. Vous avez des TGV qui ne s'arrêtent qu'à quelques gares. Alors aujourd'hui, vous avez, oui, peut-être, hein, vous avez la philosophie grecque, oui. La philosophie grecque, en gros. Dans la philosophie grecque, deux grands noms. Aristote, Platon. Platon, Aristote, deux grands noms. Puis Socrate, un grand nom. Il n'a pas écrit, il a pensé. Alors sa pensée, elle s'est incarnée de diverses façons. Puis avant, les présocratiques. Oui, mais c'est intéressant de voir qu'on dira les présocratiques, avant Socrate, Socrate. Après Socrate. Après Socrate, vous avez des gens qui veulent être fidèles à Socrate, Platon. Des gens qui veulent être fidèles à Socrate, Aristote. Et Aristote dit, je suis plus fidèle à Socrate que Platon. Donc la référence, Socrate, ça reste. Vous avez vu le Christ. C'est pas un philosophe. Non. C'est bien plus qu'un philosophe. C'est bien plus que Socrate. Mais il bouleverse tout. Et après, vous avez les pères de l'Église. Puis la naissance de la théologie. Puis la rupture entre la théologie et la pensée. Et ça, c'est un très grand moment. La séparation de la pensée et de son milieu vital, qui était le milieu vital chrétien. Étaient les pères de l'Église, qui étaient les théologiens. Et les théologiens sont peut-être un peu coupables de ça. Dans toute rupture, ordinairement, la culpabilité est double. On ne peut pas mettre tout sur une seule personne, d'un seul côté. Descartes est chrétien. Il reste chrétien jusqu'au bout, un christianisme curieux. Curieux, mais un christianisme. Je me souviens encore, dans un salon de Lyon, bon, je ne nomme pas le nom. C'était au début, quand j'étais revenu ici. On est parti sur. Le sujet est parti sur Descartes. Et ces gens défendaient Descartes avec force. Je dis, est-ce que vous défendez Hegel de la même manière? Ah oh non, non, ça je. Ah tiens, il y a peut-être une petite parenté entre les deux. Qu'est-ce que vous dites? C'est tout à fait autre chose. Pas du tout la même pensée. D'un côté, c'est la pensée, la philosophie hegelienne de l'Allemagne qui est en train de. Et puis, Descartes, non, c'est quand même un homme de droite. La baptême de il avait le baptême politique, alors ça allait. Et tout était sauvé. Il lui montrait qu'à partir de là, mais oui, il y a une lignée. La subjectivité qui devient première. Alors voyez, c'est ça qu'on doit regarder pour nous. On doit comprendre, on est philosophe de notre monde d'aujourd'hui. Et je ne peux pas me séparer et ignorer Hegel. Je peux pas, je n'ai pas le droit. Je ne veux pas me séparer. Parce que si je m'en sépare sans me connaître, eh bien, si je ne fais pas grande attention, je penserai hegelien. Et je serai de droite hegelien. Et pourtant, je veux mirer Hegel. Et bien, je serai de droite hegelien. Parce que ça gagne tout. C'est vrai, il y a un Hegel de droite et un Hegel de gauche. Et on respire ça. Et on respire cet air-là. Et donc, il faut qu'on saisisse ça petit à petit, comprendre le milieu dans lequel on vit. Alors, évidemment, ici, il y a une clôture, hein, il y a une clôture. Alors, cette clôture s'ouvre à certains moments pour certains étudiants qui ont patte blanche. Et alors, on les accepte, hein, ils sont là présents, c'est ouvert. Mais c'est en même temps tellement différent du climat d'un cours de Sorbonne. Tout à fait autre chose. Et on enseigne une philosophie dans une perspective différente, parce qu'on cherche la vérité au-dessus de tout. Et c'est la vérité qu'on cherche. Et on peut tout le temps, si on est vraiment philosophe, justifier ce qu'on dit, à partir de l'expérience ou à partir de tel grand philosophe. Parce que c'est vrai, nous avons une source, en tant qu'être humain, du patrimoine philosophique. Il y a un patrimoine philosophique. Il y a un patrimoine philosophique européen. Il y a un patrimoine philosophique qui s'enracine dans la Grèce. Il y a un patrimoine philosophique pour l'Inde. Ce n'est pas le même patrimoine philosophique. Ce patrimoine philosophique pour l'Europe a pris une très grande diversité. La philosophie allemande aujourd'hui n'est pas la même philosophie que celle de l'Angleterre ou celle de l'Espagne, et ainsi de suite. Il faut saisir ça petit à petit. Je vous demande pas au début, mais ne jamais oublier que nous faisons de la philosophie à la fin du XXe siècle, pour nous, à l'aube du grand jubilé de l'an 2000. Ça a une répercussion sur notre philosophie. Ça, j'en suis sûr, c'est une répercussion sur notre philosophie. Je ne fais pas les cours de la même façon, parce qu'on est à l'aube de l'an 2000, qu'il y a 10 ans. Non, sûrement pas. Si je lisais mon cours, je pourrais dire que c'est la même chose. Ça n'a pas bougé depuis 30 ans. Oui, ça a bougé beaucoup depuis 30 ans. Parce que, de fait, le monde évolue avec une rapidité extraordinaire. Extraordinaire. Beaucoup plus qu'au début du siècle. Beaucoup plus que le siècle précédent. Alors, ce que j'essaie de comprendre, c'est dans ce patrimoine philosophique, je dis bien patrimoine philosophique, je ne dis pas le patrimoine chrétien, dans ce patrimoine philosophique, puisqu'il y a eu un moment de rupture entre la théologie et la philosophie. C'est un fait. Il faut bien l'accepter. Vous pouvez très bien dire c'est stupide, on n'aurait pas dû faire cette rupture, on aurait dû continuer à construire des cathédrales qui exprimaient l'unité de pensée, l'unité de cœur de la chrétienté. Et c'est vrai, ça exprimait ça. Aujourd'hui, on fait des toutes petites églises, hein, pour montrer l'unité de cœur et de pensée de la chrétienté. Tandis que là, c'était des cathédrales. Et c'est significatif, ça, puisque l'art manifeste. Alors, si je regarde l'histoire de la pensée, qu'est-ce que je vois? Je vois cette rupture qui s'est faite entre un patrimoine de culture chrétienne dans l'Église et par l'Église, avec le pape, avec la hiérarchie. Et dans ce patrimoine, à un moment donné, une rupture. Une rupture dont l'origine est déjà dans la pensée théologique, Occam, 14e siècle. Et puis, cette pensée s'est développée, Descartes. Bacon, Descartes. Il y a quelque chose de particulier là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rupture? Ah, c'est le point de départ de la philosophie. Le point de départ de la théologie reste toujours le même, la foi. Le point de départ de la philosophie, dans la perspective de Thomas d'Aquin, dans la perspective d'Aristote, il y a une continuité très grande entre Thomas d'Aquin et Aristote, puisque Aristote est pour Thomas d'Aquin le philosophe. C'est net. Il n'y a pas 36, il y a le philosophe. Donc, si vous êtes pétri de Thomas d'Aquin, vous dites aussi la même chose. Oui, c'est le philosophe. Pourquoi? Parce qu'il a été jusqu'au bout de la sagesse. Et qu'il a contemplé Dieu d'une manière très unique pour un païen, pour quelqu'un qui n'avait pas reçu la révélation. Dieu, c'est la pensée de la pensée. C'est la seule chose que Hegel garde d'Aristote. C'est émouvant du reste. C'est là le rien qui reste. Cordon ombilical entre Hegel et Aristote. La pensée. pensée de la pensée. Noésis, noéseos. La pensée de la pensée. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Il est pur esprit. Donc, il se contemple. Dieu seul se contemple. Et c'est le propre de Dieu de se contempler. Et c'est ce sommet qui est présent dans Thomas d'Aquin, toute la grandeur d'Aristote, là, qu'on retrouve chez Hegel, mais de manière totalement différente. Pour Thomas d'Aquin, la pensée de la pensée, c'est le propre de Dieu. Je ne peux pas dire que je suis philosophe si je suis la pensée de la pensée, de ma pensée. Ce que je vous donne, c'est ma pensée. Et recevez ça, c'est philosophique. Non, c'est pas philosophique. Ma pensée, si je vous la donne, c'est très bien. C'est peut-être pas bête, mais c'est pas ça la philosophie. Ce que vous cherchez, c'est la vérité. C'est très ça peut vous intéresser de savoir ma pensée, mais c'est pas ça. C'est la réalité qui me mesure. C'est pas ma pensée. Hegel fait que la pensée de la pensée qui est propre à Dieu est propre à Hegel. Alors voyez, cette chose très curieuse, chez Descartes, on se libère de la théologie en disant nous avons des certitudes philosophiques qui en valent la peine et qui n'ont pas besoin des certitudes de la foi. Et tout le débat est au niveau de la certitude, pas au niveau de la vérité. C'est la grande erreur de Descartes. C'est qu'à la place de chercher la vérité, on cherche la certitude. Alors la certitude, c'est subjectif. Hein. Quand vous êtes très passionné, ça peut arriver, grâce à Dieu. Votre certitude, elle vient de quoi? De votre passion. Et c'est à travers votre passion que vous voyez tout le monde. Il y a une paire de lunettes violettes qui est la passion. J'aime follement quelqu'un. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi intelligent. Même les bêtises sont intelligentes. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est, parce que tout est vu à travers cette lumière-là. Et on voit tout à travers cette lumière-là. Alors, évidemment, il n'y a plus moyen. C'est la subjectivité qui domine. Or, Occam, on lui pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans votre pensée ? Intelligo. Voilà ce que dit Occam. Intelligo. Et comme Occam et franciscain, est un mot Socratem. C'est intéressant du reste, hein. C'est très intéressant. Je pense intelligo. Qu'est-ce que dit Descartes ? Cogito. Et un mot Socratem, ça dégringole chez Descartes. Cogito ergo sum. Alors le « et » ergo sum. Socrate, c'est moi. C'est quand même curieux. Hein. Occam, donc ici, 14e siècle, Cogito, ergo sum Socrate. Tous les deux, vous voyez, le point de départ de leur pensée est subjectif. C'est eux. C'est pas la réalité. Non, c'est eux. Ergo sum. La réflexion sur intelligo, sur cogito, et ergo sum, je m'enferme sur moi-même. Donc, le et amo Socratem est laissé de côté. Socrate se coupe de l'amour. La philosophie de Socrate est un. pour Socrate, l'amour, c'est toujours la passion. Il n'y a que la passion. L'au-delà de la passion, c'est lui. Ergo sum. Donc, il n'y a pas d'amour spirituel. L'amour spirituel disparaît avec Descartes. Et c'est le cogito. Et alors, au terme, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc une nouvelle lignée à partir de Descartes. Vous avez une nouvelle lignée. C'est le cogito. Alors, le cogito, il a grossi. Le cogito européen. Cogito. Et il est tellement gros qu'il est obligé de se diviser. Le cogito du théologien hegélien, le cogito du théologien espagnol, le cogito, et ainsi de suite, voyez. Bon, c'est ça qui est important à voir. Il y a donc un nouveau point de départ. Je pense, je cogite, je pense. Et puis, il y a perpétuellement, avec certaines reprises, une pensée réaliste. Au milieu de tout ça, vous avez quand même certains philosophes maritains à essayer d'avoir une pensée réaliste. Et quel est le point de départ de la philosophie de maritain? Ça m'intéresse. Vous ne l'avez pas connu, vous. Moi, je l'ai connu. Et c'était un ami. Quel est le point de départ de la philosophie de Maritain? L'intuition de l'être. Ah, un retour vers l'être. Et ça, c'est le grand mérite de Maritain. Il a compris qu'il ne fallait pas se replier sur soi. Il y a Maritain, il y a Étienne Gilson. Et Gilson a compris avec beaucoup de netteté, que si je regardais l'histoire de la pensée européenne, il y avait un avant et un après. Un avant Occam, 14e siècle, avant Descartes. Je suis en face d'une pensée qui cherche à découvrir ce qui est l'être. La pensée est relative à l'être. Et après Descartes, l'être est relatif à la pensée. Cogito ergo sum. Donc le sum, je suis, est relatif à ergo, à cogito. Alors, Étienne Gilson a dit ça avec beaucoup de netteté. Bon, il y a deux grands courants, la Saône et le Rhône. Et on se demande si c'est la Saône ou si c'est le Rhône, quand ils se rencontrent. Lequel est victorieux de l'autre? Dans les rencontres, c'est toujours ce qui se passe. On pourra après faire l'unité. Il n'y en a qu'un qui se jette dans la mer. Est-ce que c'est le Rhône ou est-ce que c'est la Saône? Et je prends cet exemple-là parce qu'il est proche d'ici. L'expérience, nous disons que c'est le Rhône, mais on pourrait dire que c'est la Saône. Il y a eu entre deux un lac qui a tout brouillé, n'est-ce pas? Le lac Léman, on s'est jeté dedans, et puis quand on en sort, on ne sait plus si c'est bien encore ça. Et c'est vrai, je donne pensée, et ça c'est intéressant, les sources. Quand vous allez en Suisse, il y a un endroit où vous voyez la source du Rhône, et vous voyez la source du Rhin. C'est pas très éloigné. Quand vous regardez l'un et l'autre se jetant dans la mer, ils sont très loin. Le Rhône, quand il se jette dans la mer, le Rhin, quand il se jette dans la mer, ils ont une drôle d'histoire l'un et l'autre. Hein. Quand ils se jettent dans la mer, ils se perdent. Les sources. Eh bien, il y a deux sources à partir de Descartes, à partir de Occam. Il y a deux sources. le cogito, le intelligo, et puis l'être. Et Étienne Dujardin a raison de dire que c'est vrai dans l'histoire de la pensée philosophique européenne qui est née d'une pensée théologique, et ça explique beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de philosophes actuellement qui sont furieux d'avoir comme grand-père des théologiens. Et on passe assez de liberté intérieure, n'ont pas assez de liberté intérieure pour dire c'est très vrai. Non, on a commencé à être des théologiens, mais après tout, je respecte les cathédrales. Je trouve que les cathédrales sont quand même un monument grand, beau. Pas grand-chose du XIIe siècle de la même époque qui demeure. Il y a les Romains, dans les Romains, c'est un peu colossal. Tandis que quand vous regardez une cathédrale comme celle de Chartres, il y a une finesse. Et quand vous voyez toutes ces cathédrales différentes dans l'Europe, il y a une finesse. Alors, au point de vue artistique, je respecte le Moyen-Âge, je ne le respecte pas au point de vue de la pensée. C'est triste. Quand on sait que l'art s'enracine dans l'intelligence et dans le cœur, mais dans l'intelligence, un art qui ne s'enracine plus dans l'intelligence perd sa valeur. Alors, je respecte l'art et je refuse la pensée. Vous voyez, le divorce. Un tel divorce implique un a priori. Et cet a priori est facile à comprendre, c'est qu'on est anti-chrétien. On ne veut pas la civilisation chrétienne. La civilisation chrétienne a porté l'art chrétien et elle a porté la pensée aussi. Et si j'accepte l'art, j'accepte la pensée. Je n'y ai eu quelque chose de grand à ce moment-là. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a été la grandeur des cathédrales, qu'est-ce qui a été la grandeur de cet art-là, qu'a été la grandeur de l'union de l'intelligence de la pensée. C'est l'encyclique du pape, ça. Si on essaie de comprendre. Et on voit que, alors, avec Descartes, la distinction entre foi et intelligence est devenue une séparation. On a fait de la distinction une séparation. L'origine de la philosophie, c'est le cogito. C'est terrible, hein? Parce que moi, je ne peux pas cogiter comme Descartes. J'ai beau faire un grand effort, je n'arrive jamais à cogiter comme Descartes. Et si je disais que je cogitais comme Descartes, je disais, mais vous êtes un peu fou. Vous imaginez ça? Mais vous ne pouvez pas. Descartes est Descartes. C'est un individu. Et avec la mort de Descartes, le cogito est mort de Descartes. Mais le cogito a eu beaucoup d'autres pensées. Beaucoup de petits cogito à partir de Descartes. Des petits cogito partout. Ils se sont élevés quand le grand cogito a disparu. Le cogito. Ergo sum. Alors, vous voyez, à partir de Descartes, séparation. Séparation du développement du cogito qui va jusqu'à Hegel. Mais la grande différence entre Descartes et Hegel, c'est que Descartes reste chrétien catholique. Hegel est chrétien protestant. Alors, il n'a plus le regard philosophique suffisamment fort pour voir que l'intelligence n'est pas abîmée par le péché originel. Pour Luther, l'intelligence humaine est affaiblie, abîmé par les conséquences du péché originel. Par le fait même, l'intelligence n'a plus la force de se tenir toute seule. Elle ne peut se tenir dans la vérité que dans la foi. Donc, il y a un fidéisme. Vous voyez ? C'est là toute la grosse différence entre Descartes, l'un est catholique et l'autre est protestant. Et c'est une différence du cœur, vous voyez. Ça vient de leur foi. Qui fait que l'un a plus de santé intellectuelle, que l'autre ne peut pas avoir cette même santé intellectuelle sans la foi et sans unir les deux. De sorte que la pensée hegélienne, elle est théologique. Et ce sont les philosophes qui s'en sont emparés. Et après les philosophes, les théologiens. C'est très curieux ça. Alors, ce qui nous intéresse ici pour nous, c'est de voir que ce patrimoine philosophique européen s'est divisé en deux. Ceux qui restent à réfléchir sur une philosophie à partir de l'expérience, et ceux qui réfléchissent sur une philosophie encore à partir de l'expérience. Mais la différence, c'est que pour les uns, l'expérience la plus forte, c'est l'expérience de l'intelligence unie au toucher. C'est ce que je touche qui me fait atteindre ce qui est. Ce n'est pas toujours ce que je vois. Parce que je sais que les hallucinations commencent plus par l'imagination de la vision que du toucher. Quand vous avez des hallucinations du toucher, c'est très grave. Hein. Et je touche la table. Et je pourrais dire, ah non, je touche un petit mouton. C'est extraordinaire. Là, mais comment ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ordinairement le toucher, vous rattrapez quelqu'un et dire, oui, voilà, je suis là. Non. C'est pas toi, c'est un ange. Ah, c'est pas toi, c'est le démon. Ah, non, mais non, c'est moi. Ah non, c'est le démon. J'affirme, c'est le démon. Alors, une hallucination, oui, même du toucher, c'est l'imagination qui a gagné son du terrain et qui m'empêche de toucher la réalité. Alors, il y a deux courants de philosophie, et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, parce que vous avez un courant d'une expérience intérieure et la philosophie de l'expérience au sens le plus fort, qui implique l'intelligence liée au sens. Et ceci est propre à l'homme. Ma connaissance de mon toucher, elle n'est pas angélique. La connaissance que j'ai de mon cogito, ben peut-être que l'ange a quelque chose comme ça. La fumologie, elle est un peu angélique. Mais qui fait l'ange fait la bête. Hein. Elle est très angélique. Parce qu'elle commence par nous-mêmes, c'est tellement plus intéressant. C'est tellement plus intéressant de se regarder que de vouloir regarder l'autre. Parce que l'autre, quand même, c'est pas moi. Donc c'est quand même moins intéressant que moi. Tandis que me regarder moi-même, c'est beaucoup plus intéressant. Moi, ça, c'est vivant. L'autre, il faut le toucher pour voir si c'est vivant, pour voir s'il a des réactions. Et c'est pour ça que quand je suis pris par moi, je touche toujours en le blessant pour qu'il réagisse. Et alors on devient méchant. La fumologie conduit à la méchanceté, forcément, puisqu'il n'y a que soi. On se retourne sur soi. Et là, le gros problème pour nous, et ça c'est un gros problème plan philosophique, allez-vous faire la philosophie du cogito? Allez-vous faire la philosophie de ce qui est? Vous avez là les deux. Et vous les deux, tous les deux s'appuient sur le patrimoine philosophique européen. Le patrimoine philosophique européen grec, transformé par la théologie, par l'afflux de la foi, et l'autre qui à l'intérieur même de la pensée théologique, cette séparation au niveau de la certitude. C'est curieux, hein ? On a quitté la recherche de la vérité et on cherche la certitude. Vous cherchez la certitude quand vous êtes en état de panique. Celui qui a peur cherche la certitude. Donc, c'est toujours une faiblesse. Ce qu'on découvre dans la faiblesse, dans l'infériorité, faisons attention, c'est jamais quelque chose de premier. C'est toujours à travers ma faiblesse que je le découvre. Et je découvre mon cogito dans une faiblesse. Je suis en face des certitudes de l'Église. Je suis en face des certitudes de la foi. Des certitudes des grands théologiens, de Thomas d'Aquin. Alors, est-ce que je peux encore avoir une autre certitude qui soit la mienne, qui soit ma certitude, qui soit mon cœur, mon intelligence, mon cogito? Vous voyez la séduction du cogito en face de certitudes tellement fortes du croyant et de l'Église, des dogmes. On a horreur des dogmes, puisque ce sont des certitudes nouvelles qui se viennent s'ajouter de l'extérieur. Je suis obligé de croire. Ça a été proclamé comme un dogme. Donc c'est la révélation qui continue. Ce sont des petits prophètes qui continuent. Ils sont très bien habillés. Ils sont chrétiens. Mais ce ne sont pas des prophètes comme dans l'Ancien Testament. C'est l'Église. On voit très bien ça. C'est le climat qu'on comprend très bien. Descartes a eu cette espèce de génie un peu terrible de séparer ce que toute la tradition chrétienne, tout le patrimoine chrétien distinguait, l'intelligence et la foi. On les distinguait, mais on ne les opposait pas. Et on disait que tout ce qui atteint la vérité ne s'oppose jamais à la foi. Avec Descartes, on sépare. L'intelligence humaine cherche une certitude qui soit la sienne. Alors, où se trouve, plus exactement, où se trouve la plus grande certitude ? La plus grande certitude, c'est... Actuellement, je pense. Je suis seul à pouvoir le dire, hein, parce que vous ne pouvez pas me le dire. Actuellement, je pense que c'est ma certitude la plus grande. Personne ne peut m'enlever cette certitude. Vous voyez, le blocage entre vérité et sincérité qui se fait par la certitude. Et on reste dans cette sincérité, je cogite. Alors, on va, dès le point de départ, montrer pourquoi je reviens à l'expérience, ceci est l'expérience la plus brutale, la plus profonde, la plus radicale, ceci est jugement d'existence. Et je comprends qu'il y a quelque chose de très particulier qui m'est très propre, cogito. Parce que le cogito de mon voisin n'est pas le mien. J'ai un droit de propriété sur mon cogito. Je peux toujours dire à l'égard de mon voisin, tu cogites aussi, mais tu cogites beaucoup moins bien que moi. Et donc mon cogito est bien plus riche que le tien. Et c'est vrai, je peux vous le dire, parce qu'avec l'âge, on accumule les cogitos. Donc il est beaucoup plus lourd que le vôtre. Chaque année, une nouvelle, le cogito. Le cogito du petit enfant. Hein. C'est un petit cogito, mais il cogite quand même. Il a faim. Ça se ramène à ça, j'ai faim. Je cogite. Je cogite la faim. Cogito très très simple, très pur, très limpide, le désir qu'il a d'être en sécurité, Et c'est vrai, le désir de la sécurité est quelque chose de très vital, très très vital. On a besoin de ça. Si on n'a plus de sécurité, on ne peut plus. On vit en tremblant. Parce qu'il n'y a plus de sécurité.